ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon? Elle est bretonne?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Bon, si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, magne-toi, ça va péter dans 15 secondes.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Bonjour, c'est Julie pour la librairie du Vent dans les Plumes. Et je suis là à l'invitation de Jacques, que je remercie. Et du coup, on a décidé sur ce billet, vu que nous approchons de cette date du 8 mars, dont je rappelle que ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée de mobilisation et de réflexion autour des droits de la femme, j'ai décidé, nous avons parlé ensemble, du fait de travailler aujourd'hui sur des autrices. Pour commencer, j'avais envie de vous parler d'un livre vraiment magnifique, de Njouda. C'est de la poésie, et donc elle est Gazaoui, et elle a appelé son livre « Gaza au Majois ». C'est traduit de l'arabe Palestine par Mireille Mikaï et Henri-Jules Julien, et tout ça c'est produit par les éditions Héros Limite. C'est sorti en septembre 2025. Alors que Gaza, son pays et son amour est dévasté, la poétesse Njouda cherche à répondre à la question « Comment être poétesse en temps de guerre ?» Entre la douleur et le deuil, son écriture célèbre malgré tout la vie. Et c'est ça qui est vraiment éblouissant et extrêmement émouvant. Dans Gaza au Majois, elle livre au public des poèmes qui créent un pont impossible entre la joie et la mort, entre les petits bonheurs du quotidien et la force de continuer à lutter. Et du coup, je ne vais pas vous en parler, j'ai plutôt envie de vous faire écouter cette autrice. Ça commence, ses premiers mots, je les trouve vraiment magnifiques. Ils disent, son poème s'appelle « Envol ». La méthode de l'oiseau est très simple. Déployer les ailes en grand. Battre l'air avec. Faire un petit sprint si on est au sol, mais d'abord ouvrir la cage. Ça, c'est le début. Ça pose directement l'ambiance. Et je vais vous lire ensuite un autre extrait de ce recueil de poésie. Que signifie être poète en temps de guerre? Cela signifie s'excuser, abonder en excuses pour les arbres brûlés, pour les oiseaux sans nid, pour les maisons pulvérisées, pour les longues crevasses au flanc des rues, pour les enfants pâles avant et après la mort, et le visage de chaque mère triste ou tuée. Que signifie être en sécurité en temps de guerre? Cela signifie avoir honte de ton sourire, de ta chaleur, de tes vêtements propres, de tes heures creuses, de ton bâillement, de ta tasse de café, de ton sommeil paisible, de tes proches toujours en vie, de ta satiété, de l'eau disponible, de l'eau potable, de la possibilité d'une douche, du hasard d'être encore en vie. Oh mon Dieu, je ne veux pas être poète en temps de guerre. Donc Njouda est une poétesse palestinienne qui est née à Gaza en 83 dans le camp de réfugiés d'Al Burjeï, où elle a vécu jusqu'à ce que sa maison ainsi que le commerce de son mari soient entièrement détruits. Elle s'est alors réfugiée au Caire avec ses enfants. Elle est autrice de poèmes et de nouvelles qui sont publiées dans beaucoup de sites et qui ont été traduites dans de nombreuses langues. La poétesse Gazaoui est l'une des voix les plus remarquables de la nouvelle scène poétique palestinienne. Elle est habitée par les souffrances de sa terre natale. Sa poésie puise dans le vécu des femmes gazaouis, aussi pour dire l'indignation face au massacre et à la défaite du monde. Pour continuer, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas tout récent, qui est écrit évidemment encore par une femme. Bon, j'ai lu toute son œuvre, je suis extrêmement en admiration et amoureuse de l'écriture de Wendy Delorme. Wendy Delorme, et là je vais vous parler de « Viendra le temps du feu » de chez Kambourakis, sorcière. Là on est sur une dystopie, donc c'est un roman qui est sorti en 2021. Et c'est une dystopie et on est dans une société totalitaire. On n'est pas très loin de la Servante écarlate. C'est une société totalitaire avec des frontières closes, bordées par un fleuve. Donc il y a vraiment une rive du fleuve qui est donc la capitale et qui est vraiment c'est Big Brother. Et sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes et notamment inspirée par les guerrières de Monique Wittig, qui était une féministe qui a écrit du coup Les Guerrières, qui est vraiment un sublime essai. Dans la capitale du territoire qui est fermé, il y a divers personnages qui vont se raconter. Donc c'est vraiment un roman choral, une dystopie qui reflète les crises que nous traversons aujourd'hui. C'est poétique, c'est incandescent, c'est vraiment, on parle d'émancipation des corps, des esprits, de révolte et de sororité. C'est un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif. Voilà, et là c'est vraiment plusieurs personnages, c'est des chapitres très courts, des femmes, des hommes qui vont raconter leurs aspirations, comment est-ce qu'on en est arrivé là, entre passé et présent. On en est arrivé à une société vraiment totalitaire. Il y a eu le suicide en fait des adolescents. Donc on a brûlé les livres parce que les adolescents se sont suicidés parce qu'il y avait une crise écologique et que c'était leur seule façon de se battre pour ça. Les femmes n'arrivent plus à avoir d'enfants. Donc les femmes qui restent, on va évidemment leur proposer d'être des mères porteuses. Pour la patrie, voilà. Donc, chaque choix de cette artiste, Wendy Delorme, c'est vraiment une poétesse. Et là, elle lance un cri d'alarme et une ode à la liberté et à la sororité. C'est une militante des droits de la femme, une militante queer. Il y a de nombreuses références littéraires qui sont aussi des respirations dans le texte qu'on lit un peu en marchant comme ça sur des charbons ardents. C'est passionnant, c'est passionnel, c'est très beau. Et j'avais envie de vous lire un petit extrait. C'est la toute fin et du coup, je trouve que ça résume vraiment ce qu'on peut ressentir dans ce livre. Il paraît que l'odeur... Ce sont les molécules. Respirer le parfum d'un corps, d'une chevelure, c'est l'avaler un peu. Goûter une personne, imprégner les infimes particules de son être. Il parlait que porter un embryon en soi précède à des échanges de cellules qui migrent de l'enfant vers le corps qui le porte. Ils deviennent cellules souches et des années plus tard, ils sont encore présentes, même multipliées. L'enfant que j'ai porté est donc encore en moi. Plus de 8 ans après sa venue au monde. Les peaux que j'ai léchées, mordues et embrassées font donc partie de moi, même des années après que l'on s'en est séparé. Mon corps est donc la somme des deux corps qui m'ont faite, du corps que j'ai porté, des corps que j'ai aimés. Il est la somme de ceux dont j'ai goûté l'odeur sans le vouloir. Dans le bus, au travail, dans la rue, chaque fois que mes narines ont frémi d'écœurement, j'absorbais malgré moi des particules d'un autre. Mais celles de mes sœurs vivent dans tout mon être. Celles que j'ai embrassées, avec qui j'ai dormi, partagé des repas, et qui ont laissé des cellules de leur peau, salive, sueur, cheveux, poils, rognures d'ongles, larmes, aussi parfois. Mon corps ne s'arrête pas aux limites de la peau. Mon corps ne mourra pas le jour où je mourrai. Il a semé partout des fragments, gènes, souvenirs impalpables et données matérielles qui ne peuvent s'effacer. La seule chose qui meurt vraiment est la conscience. C'est pourquoi j'écris, souvent, dans ce cahier, pour conjurer le sort de disparaître un jour sans avoir laissé trace de l'histoire qui m'habite et de celle de mes sœurs. Ça, c'est donc Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Mais allez, venez le découvrir, c'est vraiment juste sublimissime. Et là, je vais vous laisser écouter une chanson qui est assez courte, de l'artiste Mathilde. Et cette chanson, c'est « À la gloire des femmes ».
Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, quel père de mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et ce jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort.
Pour continuer là-dessus, et non sans transition, du coup, je vais vous parler d'un album, d'une BD qui s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est de donc Titou Lecoq et de Marie Dubois à l'illustration. Donc c'est un texte qui avait d'abord été écrit par Titou Lecoq, qui était sorti je crois il y a trois ans. Et elles ont décidé d'en faire une BD qui est sortie du coup en septembre 2025. D'abord, un grand bravo aux auteurices pour avoir réussi à transporter en BD ce livre de Titou Lecoq. Elle est très accessible, elle est bien dessinée et surtout, elle apporte un regard sur l'histoire qui est différent de celui que nous offrent habituellement les livres en réhabilitant le rôle des femmes. Donc Titou Lecoq et Marie Dubois ne cherchent pas du tout à effacer le rôle des hommes, hein, non, simplement à écrire une histoire qu'on ne nous raconte jamais, celle de la moitié de l'humanité, celle des femmes. Donc des chasseuses de la préhistoire aux militantes contemporaines, des reines oubliées aux savantes invisibilisées, les grandes oubliées traversent les siècles pour montrer que les femmes ont toujours été présentes, actives et souvent décisives. Et évidemment qu'elles ont été effacées, marginalisées ou minimisées par des récits dominants. Et donc des récits dominants souvent issus du patriarcat. Donc Lecoq déconstruit les mythes hérités de toute cette domination patriarcale. Non, les hommes n'ont pas tout inventé. Et non, les femmes n'étaient pas confinées à la sphère domestique et au balai. Voilà, donc c'est une véritable encyclopédie, ça se lit comme un roman, ça devrait être étudié dès l'école primaire, et ça remet un petit peu les pendules à l'heure, voilà, sur la situation des femmes à travers les époques de la préhistoire à nos jours. Voilà, mais quand on a fini évidemment cette lecture, on se dit bah, que non, ce n'est pas encore réglé tout ça, hein, malgré les droits acquis. Et donc j'avais envie de dire pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'introduire les femmes en histoire, ça serait une décision politique, féministe, alors que de les avoir exclues, est-ce que c'était pas ça qui était plutôt politique ? Voilà. Un travail d'homme qui reconduit la domination masculine passe rarement pour militant et ne s'affirme jamais comme tel. Voilà. Donc le discours dominant et officiel paraît neutre alors qu'il ne l'est pas. Voilà. Donc non, ça n'est pas un engagement particulièrement féministe que de lire ce livre. C'est juste de réhabiliter les femmes dans l'histoire. Et j'avais envie de vous dire une petite chose qu'elle dit à un moment. Donc c'est une jeune fille qui découvre en fait, c'est une jeune fille qui va découvrir par la fresque historique en fait le rôle qu'ont tenu les femmes. Et non, la femme préhistorique n'était pas en train de s'occuper du repas et de passer le balai dans la grotte. Voilà. Et donc cette jeune fille dit, ah, oh, eh bien, contrairement à ce qu'on m'avait appris, le spermatozoïde ne perce pas l'ovule. Non, à la surface, il y a des protéines de l'ovule qui s'appellent les ZP3 qui vont s'emboîter avec les protéines du spermatozoïde et permettre la fusion des gamètes. Le processus même donc de la fécondation est actif des deux côtés. Non, le spermatozoïde ne pénètre pas l'ovule en la forçant. Voilà. Donc c'est assez drôle parce qu'elle va détourner ça et c'est très drôle, c'est humoristique et à la fois vraiment on en apprend beaucoup, on a l'impression de sortir beaucoup moins bête quand on referme ce livre. Voilà, ça nous éclaire et peut-être que ça nous amène aussi à une légère colère et une envie de faire changer encore les choses. Voilà pour les grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes ? Et je vais terminer par un petit roman jeunesse. Alors, c'est un essai. Et ça s'appelle « C'est mon corps » de Maylène Chapiron à la Martinière Jeunesse. Alors ça, c'est vraiment... on a deux versions à la maison. Enfin, on a « C'est mon corps » et il y a aussi « Interdit de me faire mal ». Donc Maylan, elle avait aussi fait un album sur l'inceste pour les tout-petits qui s'appelle Le Loup. Voilà, elle est vraiment une défenseuse, elle s'occupe beaucoup de vulgariser et de simplifier en fait pour que l'enfance puisse être protégée. Donc là, nous, on a des petits albums tout carton. Et là, celui-là, c'est mon corps. C'est un petit album, du coup, qui est fait pour expliquer de manière ludique et rigolote l'intégrité corporelle et le principe du consentement ou du non-consentement. Voilà. Alors, l'autrice s'adresse directement à l'enfant et elle lui fait par des questions. Et c'est assez drôle. Moi, mes enfants, ils veulent tout le temps qu'on le relise parce qu'ils adorent. Il y a cette espèce de modus operandi de dire non, voilà. Et ça va leur faire prendre conscience par les jeux de questions-réponses, en fait, que l'enfant, il est le seul à pouvoir toucher son corps. Je vais vous faire le petit début. C'est aussi un petit clin d'œil à mes enfants parce que je pense qu'on écoutera ça ensemble et ils connaissent par cœur. Alors ça commence par « Voici ton corps, il est à toi. Personne n'a le droit de le toucher si tu n'es pas d'accord. C'est toi, le chef ou la chef de ton corps. » Et en dessous, il y a un petit canard qui dit « C'est moi qui décide. » Et maintenant, voici tes parties intimes. La poitrine, les seins et le sexe. Les vrais noms du sexe sont la vulve et le pénis, mais on peut aussi dire la zézette, la foufoune, la fleur, la minette, la nénette, le kiki, le zizi, la kikette, la zigounette. Et toi, comment appelles-tu ton sexe ? Et le petit canard, il dit « Moi, je l'appelle la bistouquette. » C'est vraiment, tout est sur ce ton-là. Et puis, il y a aussi la bouche et les fesses, avec le trou des fesses, qu'on appelle l'anus. Pour bien te souvenir, les parties de ton corps cachées sous ta culotte ou ton slip sont tes parties intimes. Hé hé ! Tes parties intimes sont à toi et à toi seule. Tu peux les toucher pour les découvrir, c'est normal et même bien, mais personne d'autre n'a le droit de le faire, c'est interdit par la loi. Alors, voyons si tu as compris. Est-ce que ta sœur ou ton frère a le droit de toucher tes parties intimes ? Non !
Moi, j'ai pas de sœur en plus.
Et on va prendre tout le livre sur ce ton-là. Est-ce que tes cousins et tes cousines ont le droit de toucher tes parties intimes ?
Non !
Est-ce que tes parents ont le droit de toucher tes parties intimes ? Alors, certains enfants ont besoin d'aide pour se laver ou s'essuyer aux toilettes, mais si ce n'est pas ton cas, alors c'est non. Est-ce que tes copines, tes copains ? Et puis on continue avec les personnes de l'école. Mais est-ce que le Père Noël a le droit de toucher tes parties intimes s'il te donne des cadeaux ? Mais non, surtout pas ! Voilà. Et on va continuer comme ça et on va aller de plus en plus loin, évidemment. Et c'est vraiment, vraiment très chouette. Voilà, c'est un beau livre pour apprendre le consentement, pour apprendre aussi l'intimité. Et c'est dès moi, j'ai commencé à leur lire à deux ans. Et ils adoraient qu'on puisse répéter ça. Il y a des super-héros. Est-ce qu'ils ont le droit de toucher les parties intimes en échange de chatouilles ? Mais non, bien sûr que non. Non, personne. Voilà. Voilà, et donc je vous propose ce livre, on l'a à la librairie et on a l'autre aussi qui est interdit de me faire mal et c'est sur le même ton autour de frapper, de se mordre, est-ce qu'on a le droit ? Même les paroles aussi peuvent être comme une baffe et est-ce qu'on a le droit ? Non, non, non. C'est Maylène Chapiron et c'était « C'est mon corps ». Et pour finir, eh ben forcément, je vais vous envoyer sur une chanson, encore une fois, de Mathilde, qui s'appelle « Le corps des femmes ». Et je vous souhaite une très belle semaine. Merci beaucoup, au revoir.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on ne lui foute jamais la paix ? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté ? Mais mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idées, leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leurs drames. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, tout feu, tout flamme, tu as servi le corps des femmes? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté. La féminité irascible, ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent, mon corps de femme est un palace. Mon corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagé sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi c'est toujours de flamme, tu as servi le corps de femme. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix?
Vous écoutez Du vent dans les plumes, la chronique qui ébouriffe les pages et donne des idées de lecture sur CFM Radio.
En partenariat avec la librairie Du vent dans les plumes à Cordes-sur-Ciel.
Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guirec.
Ah bon? Elle est bretonne?
Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi.
Bon, si t'as des volontés à exprimer, une prière que t'aimes bien, ou un mot historique à balancer, baigne-toi.
C'est chouette comme métaphore, non?
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.